Écrit l'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour André.
Bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour.
Et bonjour Marie-Paul de Sèvres.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Marie-Paul de Sèvres pour son livre, un récit intitulé « Le père pacifique de Valigny, un capucin français parmi les autochtones du Canada ». C'est paru aux éditions L'Harmattan en 2022. Alors ce livre, si je ne me trompe pas, est le septième de votre bibliographie, hein, qui est composée de romans, d'enquêtes historiques, mais aussi littérature jeunesse. Et celui dont nous allons parler aujourd'hui est donc un récit. On l'a compris, hein, lorsque on lit un peu votre biographie, que l'histoire, et l'écriture a une place importante dans votre parcours. Donc on ne vous demandera pas pourquoi l'écriture, comme on le fait habituellement. En revanche, vous êtes beaucoup intéressé à l'histoire. Hein, et on a peut-être envie de savoir effectivement pourquoi cet intérêt qui parcourt la quasi-intégralité de vos ouvrages, Marie-Paul de Sèvres. Merci.
Alors, pourquoi l'histoire ? C'est pas plus facile que pourquoi l'écriture, hein.
Je suis désolée.
Disons que c'est un intérêt personnel pour ça, pour cette... ces connaissances-là, avec cette idée que l'histoire nous construit, qu'elle nous apprend aussi d'où nous venons, bien sûr, mais aussi peut-être que ça peut nous aider pour savoir où on va. Et puis, c'est aussi toujours quand même des histoires de personnes du peuple, des gens simples pour la plupart, et donc cette idée aussi que les gens d'en bas, comme avait dit un premier ministre une fois, sont intégrés dans l'histoire aussi, et ils ont aussi leur manière de vivre l'histoire. Voilà.
Merci beaucoup.
Alors, le nom, Père pacifique de Valigny, le sous-titre, Un capucin français parmi les autochtones du Canada, la photo de cet homme sur la couverture contribue d'emblée à nous faire basculer dans un autre monde. Dans ce récit, Marie-Paul de Sèvres déplie la vie mouvementée du père pacifique, missionnaire, historien et linguiste, spécialiste de la langue Mi'kmaq. Nous découvrons sa vie au plus près des Indiens Mi'kmaq de 1894 à sa mort en 1943. André, pour une première lecture.
En 1894, l'évêque de Rimouski, souhaitant implanter solidement les Capucins au Canada, cherchait une congrégation pour l'installer à demeure à Ristigouche. Il désigne Pacifique de Valigny, qui devient missionnaire de Sainte-Anne de Ristigouche et arrive en septembre 1894. Une petite chapelle et une habitation avaient été préparées. Il y a des Mi'kmaqs et des Blancs, dont certains sont les descendants des Acadiens, venus se réfugier là au moment du grand dérangement. Dès qu'il met les pieds chez vous, il se passe quelque chose de l'ordre du coup de foudre, de l'émotion esthétique. Lors de cette visite, il est invité par le célébrant à participer au service pour l'enterrement d'une Indienne. Cela se fait au rite Mi'kmaq. Il se trouve que les Mi'kmaq, vos ancêtres, ont gardé le privilège d'utiliser leur langue plutôt que le latin pour les chants liturgiques et il est subjugué par la beauté de ce qu'il entend. La suite de sa vie et de ses travaux intellectuels se joue à ce moment-là. Il ne cessera de s'intéresser à la langue Mi'kmaq. Il est émerveillé de la richesse de la langue, de ses nuances à l'infini et de la précision de ses expressions. Mais la mélodie, la façon de chanter l'ont tout autant touché. Et c'est peut-être là que naît son intérêt pour la culture de votre peuple. Des chantres Mi'kmaq ont chanté dans votre langue aux offices religieux à l'église de Sainte-Anne de Ristigouche jusqu'en 1980. Il y tenait à ces parties de messe chantées dans votre langue. C'est qu'il était rare à l'époque de ne pas chanter toute la messe en latin. C'était un bourreau de travail, disent ceux qui l'ont connu en 1894. Et il se lança dans de grands projets, construction d'une église et d'un couvent.
Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit effectivement des gens du peuple hein, qui sont aussi inscrits dans l'histoire. Là, André vient de lire une partie où on voit ce coup de foudre du père Pacifique pour la langue Mi'kmaq. Il y a aussi un procédé littéraire qui, en fait, on rentre par l'histoire d'une personne, le père Pacifique, et en fait, c'est comme une fenêtre sur la grande histoire, oui. Celle des Mi'kmaq, qui est particulièrement difficile. Voilà, on aimerait bien vous entendre sur ce procédé littéraire de rentrer par du singulier pour aller au plus large, en fait.
Oui, bah, je pense que c'est ce que j'ai fait un peu à chaque fois. Comment dire ? Est-ce que c'est le procédé littéraire ? Après, il y a un vrai procédé littéraire dans l'écriture, hein, qu'on a peut-être entendu avec le « vous », puisque j'ai fait le choix, de pour raconter la vie du père Pacifique, de faire comme si je m'adressais au Mi'kmaq de Listougouche, puisque la réserve maintenant a repris son nom Mi'kmaq, qui est Listougouche, Ristigouche étant la version française du mot. Ben parce que c'est ce que je disais au début, hein, cette façon, cette recherche, cette envie de montrer que les gens issus du peuple, ils sont aussi inscrits dans l'histoire, ils ont une ouverture vers l'histoire, ils sont marqués par cette histoire, ou ils la marquent quelquefois. En l'occurrence, le père Pacifique, je pense qu'il la marque un peu. Dans les autres personnages dont je m'étais occupée avant, ils sont peut-être plus marqués par l'histoire qu'ils ne la marquent. Mais en l'occurrence, lui, je pense qu'il a... Il a sûrement eu une influence sur l'histoire de ce lieu où il a vécu pendant si longtemps.
Mais c'est effectivement, il est issu du peuple. Enfin, il s'est hissé quand même à un niveau, de par sa vie missionnaire, de par ses études, parce qu'il a quand même fait des études, ce qui à l'époque n'était quand même pas pour tous les enfants du peuple. Et du coup, il devient un personnage... plus qu'un quelqu'un du peuple, quoi. Quand même.
Oui, ah bah tout à fait. Après, il est issu de la petite paysannerie. Enfin, son père était journalier à sa naissance. Quand il naît, son père est inscrit comme journalier. Avant de se marier, son père était domestique. Enfin, c'est vraiment pas de domestique dans des fermes. Bon, donc c'est vraiment le bas du panier de si on peut dire. Mais effectivement, il a fait des études du fait d'avoir choisi le sacerdoce, hein, et qui lui a permis de faire des études. Et puis je sais pas, j'imagine qu'il devait être particulièrement apte à faire des études, intelligent et ouvert à plein de choses, et très travailleur. D'après plusieurs documents que j'ai lus, insistent sur le fait qu'il travaillait beaucoup.
D'accord. Alors, André va nous faire une deuxième lecture.
L'année 1914, le Canada entre dans la guerre aux côtés des Français. Des Mi'kmaq s'engagent. Un nombre considérable s'enrôla. Selon Pacifique, ceux des vôtres qui se sont engagés auraient été portés par un sens nouveau de patriotisme plus étendu, Au retour, il estime que cette participation à la guerre en Europe a servi à élargir leur idée de patrie et de fraternité humaine. C'est en 1926, au Congrès des Américanistes, que Pacifique fait cette communication. Déjà, les anciens soldats et leurs parents ont voté aux élections fédérales. Le temps n'est peut-être pas éloigné où les autres Mi'kmaq jouiront avec eux de ce droit et d'autres, de citoyens, dans leur pays. Ainsi se termine à Ristigouche, où est en voie de se terminer la lutte pour la domination de l'élément blanc sur l'élément indien. Non pour l'absorber ou le détruire, mais pour le relever et l'améliorer. Si l'élément blanc prend le dessus, l'élément indien n'en émerge pas moins. Et même, plutôt chaque individu de la tribu se hâtera, en acceptant de bon gré sa nouvelle situation, de se dégager en pratique de la tutelle gouvernementale, comptant sur son propre travail et son industrie, prévoyant, gagnant sa vie et économisant, acceptant les services des blancs et sachant les rendre aux besoins, plus vite sera atteint le point normal de liberté et de civilisation, préparé ici-bas par la Providence à toute race humaine. L'on voit bien qu'il ne souhaite pas l'effacement pur et simple de la culture autochtone et qu'il aurait été opposé au projet « Effacer l'Indien dans l'enfant » qui a présidé à l'entreprise des pensionnats. De même, il voudrait la même liberté pour tous. L'autonomie des individus de la tribu par rapport au gouvernement qu'il conseille de rechercher remet en cause le fonctionnement du ministère des Affaires indiennes.
Alors moi j'ai une question par rapport aux spoliations et un petit peu et à ce qu'a lu André, dont ont été victimes les Indiens, leurs terres ont été prises, ils ont été élevés, enfin peut-être pas là où il était, mais en tout cas dans pas mal d'endroits, les enfants ont été élevés dans des pensionnats pour tuer l'Indien effectivement, mais dans les écrits que ce qui se comprend d'ailleurs, mais bon, du Père Pacifique, il ne fait pas allusion évidemment à la religion. Parce qu'au départ, la colonisation a commencé comme. Enfin, c'était une colonisation économique, mais aussi une colonisation, de prosélytes, quoi, qui cherchaient à exporter la religion. Et là. C'est comme si ça lui semblait normal, quoi, qu'ils aient adopté la religion.
Tout à fait. Je pense que ça lui semblait normal. C'était il y a 100 ans. Hein.
Oui. Non, mais
et donc, autant, je pense, il était peut-être en désaccord avec certains aspects de la politique qui étaient menés par rapport aux populations autochtones, autant pour d'autres, il avait rien à redire. Enfin, il est dans l'état d'esprit de cette époque-là où c'est bien d'apporter la religion aux gens qui n'ont pas.
Enfin, cette religion-là.
Oui, évidemment.
Parce que
la religion chrétienne, évidemment. Voilà. Bon, catholique en l'occurrence, c'est encore mieux. Oui. Hein, quand on est un capucin, ça doit être la religion catholique, bien entendu. Alors là, effectivement, la colonisation du Canada, en tout cas, donc 17e siècle, en ce qui concerne le début de la colonisation là-bas pour les Français, il y a effectivement toujours cette volonté, cette recherche de profit, hein, et puis de grandeur de la nation, enfin de l'État. Et puis effectivement cette volonté d'amener la religion, ce désir d'amener la religion. Et ça dure quand même longtemps, enfin je veux dire. Et il arrive là-bas, de toute façon, il arrive là-bas et il dit qu'il découvre que. On l'appelle missionnaire, mais que la mission est déjà faite. Il arrive chez des gens qui sont baptisés depuis 300 ans, quoi. Enfin, eux non, mais leurs ancêtres, ils célèbrent le premier baptême du chef Mambertou en 1910, les 300 ans, etc. Donc c'est déjà fait et donc ça continue. C'est quand même relativement récent que c'est remis en question cette affaire-là. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'on prend ses distances avec ça, et même de la part des autochtones. Enfin, maintenant, il y en a qui rejettent la religion importée par les Blancs. Pas tous, hein, il y en a aussi qui sont sincèrement croyants et qui le restent. C'est complexe, hein, cette histoire-là.
Ah ben c'est sûr, oui. Surtout que ça fait aussi longtemps que
c'est implanté. Hein, maintenant, on est... à 400 ans, quoi.
Ouais. Très bien. Donc, pour la pause musicale, Marie-Paul a choisi le chant de l'amitié des Micmac. Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Marie-Paul de Sèvres pour son récit Le Père Pacifique de Valigny. Alors nous allons écouter un troisième extrait. André.
L'article écrit par Monsieur Claude Allard sur l'histoire de la présence des Capucins à Ristigouche cite longuement une lettre de William Wyssot, chef Micmac de Ristigouche, en 1971. Celui-ci s'interroge. Étais-je réellement sauvage? Un non-indien est-il une personne meilleure que moi? Sinon, pourquoi le pense-t-il? Il évoque divers souvenirs d'enfance, comme la division de l'Église en deux parties, l'une pour les Indiens et l'autre pour les non-indiens, ou la séparation entre les deux écoles par une clôture. Les deux écoles étaient tenues par des sœurs de la même communauté. Elles nous rappelaient nos manières sauvages et la supériorité des non-indiens et des francophones. J'avais le sentiment que nous étions mauvais et que l'homme blanc nous faisait des faveurs pour notre bien. Heureusement, ce fut différent à mesure que je grandissais. En cette même année 1971, le père Pacifique est mort depuis longtemps déjà, mais force est de reconnaître qu'il avait, comme tout le monde, pratiquer la séparation dans l'église de Sainte-Anne de Ristigouche. Il paraissait donc normal à tous les Blancs à l'époque de ne pas trop se mêler aux autochtones. Ce qui n'empêchait pas qu'il y ait eu quelques couples mixtes, puisque Pacifique signale l'existence d'enfants métis. Claude Allard porte en 1979 un jugement inquiétant. Si la ségrégation n'était pas officielle, elle se pratiquait largement et du côté des Blancs, malgré un désir évident de se rapprocher et malgré une charité facile à identifier, surtout chez les missionnaires, il semble que ce soit caché, et se cache encore, un subtil, sournois, profond et indéracinable complexe de supériorité.
Alors, cet extrait nous ramène un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, Marie-Paule de Sèvres. C'était il y a 100 ans. Et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, à un moment donné, faut toujours vous rappeler les précautions à prendre de relire l'histoire avec nos codes contemporains. Donc je trouve que l'extrait, là, vient dire quelque chose d'intéressant. Et puis, on n'a pas pu s'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Alors, ça nous éloigne, sans nous éloigner de votre ouvrage, d'une réécriture de certains ouvrages, parce que justement, ils comportent du vocabulaire ou des épisodes de l'histoire qui ne sont plus supportables quand on les lit avec nos codes contemporains. Donc voilà, on avait envie de vous entendre là-dessus, parce que je pense que vous avez rappelé ça dans l'ouvrage et vous venez de nous le dire aussi. Attention aux relectures avec des outils contemporains.
Oui, enfin, là, comment dire ? Moi, je comprends la blessure. Enfin, je veux dire, elle reste, et puis ce sentiment de supériorité des Blancs, il est quand même encore très très présent. Et donc, par ricochet, quelquefois un ressenti d'humiliation chez les Autochtones, ça reste. Enfin, d'ailleurs, j'évoque un épisode terrible là, d'une femme qui meurt à l'hôpital alors que le personnel soignant se moque d'elle. Quoi. C'était il y a 2 ans, ça. Hein, et donc, ça reste. Après, moi, je pense quand même qu'il ne faut pas changer ce qui a été écrit autrefois. Enfin, c'est mon point de vue et je le partage.
C'est le vôtre qu'on demande d'ailleurs.
Mon point de vue, c'est que il est sage, au contraire, de connaître ce qui se disait avant pour comprendre ce qui arrive maintenant, et que il faut se dire que faut pas l'effacer, faut le contextualiser, faut l'expliquer, mais l'annuler me paraît une mauvaise solution.
Et justement, j'entendais une émission, là, c'était hier, avant-hier, je crois, et à propos de ces mots qui choquent, et une traduction de Mark Twain, parce que lui, il utilise le mot nègre.
Ben, bien sûr.
Et donc, il y a des traductions qui ont été changées en esclaves, alors que c'est pas du tout, c'est pas pareil. Hein.
Ah ben non.
Et il disait, enfin, c'était pas le traducteur, mais il disait, mais au contraire, il faut les laisser, parce que ça fait un choc, mais c'est un choc salutaire. Quoi.
Bien sûr.
Parce que sinon, on veut effacer comme si ça n'avait pas existé, presque.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, moi, c'est vrai que quand j'écris, moi, en général, j'essaie de dire les Micmacs, les Premières Nations, les Autochtones, etc. Bon, comme ils ont envie qu'on dise plutôt maintenant. Mais les textes du Père Pacifique, ça peut être les Indiens, les Sauvages.
Bien sûr.
Même si il écrit quelque chose à propos du terme sauvage à un moment, avec une espèce de conscience qu'il y a un problème là autour de ça. Et puis en même temps, il dit bah oui, mais c'est comme ça qu'on dit, en fait. C'est le terme habituel, et donc voilà. Mais effectivement, réécrire Mark Twain ou réécrire Roald Dahl, comme certains l'envisagent en ce moment, je veux dire, non, mais on va tout réécrire. On pourrait réécrire Montesquieu aussi, peut-être, enfin, je sais pas.
Ouais. Oui, Marie-Paule de Sèvres, alors on a choisi des questions, choisi des extraits, mais peut-être qu'il y a des angles qu'on n'a pas vus, dont vous auriez envie de dire quelque chose à propos de votre de votre livre, puisque c'est pour le plaisir de vous entendre en parler que vous êtes avec nous aujourd'hui.
Alors, d'abord, je dois dire que quand j'ai commencé à faire des recherches un peu sur Internet à propos de mon personnage, là, du Père Pacifique, à cause de souvenirs d'enfance, hein, là, ça n'a pas été redit, mais c'est parce que je suis moi-même née dans un village qui s'appelle Valigny, qui est son village natal aussi. Et donc, j'en avais entendu parler par ma grand-mère depuis ma tendre enfance. Et d'ailleurs, la photo qui est sur la couverture, c'est celle qui était chez ma grand-mère. Et donc, quand j'ai commencé, bon, c'était une curiosité comme ça. Je me suis dit, bon, avec tout ce qu'on peut trouver maintenant sur Internet, peut-être qu'il est question de lui quelque part. Et en fait, j'ai été absolument étonnée. J'ai découvert que c'était un champ immense, c'est-à-dire qu'au Québec, je n'y suis pas encore allée, voilà, bon, ça va se faire sûrement un jour, c'est un personnage. C'est à l'université de Moncton, de Fredericton, etc. Il y a des archives, il y a je ne sais pas combien d'archives, il y a un fonds Père Pacifique. Depuis que mon livre est sorti, j'ai eu un message d'un étudiant de l'université de Laval, Montréal, qui a déposé un sujet de recherche pour un doctorat sur le Père Pacifique et son rôle dans la conscientisation politique des Micmacs, enfin des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout, je ne savais pas. Parce qu'il est quand même très ignoré en France, quoi. D'ailleurs, effectivement, en France, il y a très peu d'archives le concernant. Donc cet étudiant me demandait si j'avais des archives. Je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai rien concernant votre sujet, en fait. Moi, j'ai trouvé son histoire en France et son passage, ce qui concerne l'expulsion des congrégations à la fin du 19e siècle et son passage en Espagne. Et puis après, pourquoi il est arrivé au Québec? Mais sinon, il n'y a rien d'autre pratiquement, quoi.
Oui, ça demanderait peut-être d'autres recherches beaucoup plus.
Ah, bah oui.
Après,
oui.
Bon, voilà.
Mais après, bon, ils les font aussi là-bas, ou alors. Parce que. Moi, je ne vais pas passer 3 mois là-bas sur les archives. Enfin, j'ai plus l'âge, quoi.
Bon, en tout cas, merci Marie-Paul.
Merci beaucoup.
Donc, on arrive à la fin de l'émission. Notre dernière émission pour cette saison. La prochaine, aura lieu en septembre. Ce sera Pascal de Nance. Et je voudrais vous signaler, avant de nous quitter, le premier festival littéraire de Pornic. Enfin, festival, salon plutôt. Hein. Oui. Salon de Pornic. Qui aura lieu les 26 et le 27 mai, patronné par le CIALA.
Juillet.
Oh, excusez-moi, juillet. Patronné par le CIALA. Oh là là. Bon, voilà. Alors, nous quittons avec
Chant d'honneur.
Le chant d'honneur. C'est le chant d'honneur des Micmacs.
Voilà.
C'est ça.
J'ai choisi des musiques Micmacs.
Voilà,
le chant d'honneur. Pour faire entendre ce que.
Des Micmacs. And me.